Ça bondit, ça tourne, ça virevolte, ça fait peur, ça fait rire, ça émerveille. Pour cette deuxième saison de L'Art de passer, nous partons à la rencontre de personnalités des arts du cirque qui œuvrent en Fédération Wallonie-Bruxelles. En toute simplicité, elles nous parlent de leurs pratiques et de leur parcours. Je m'appelle Quentin Lemenu, de la compagnie Les Vrais Majors. Je suis ravi de partager avec vous ces rencontres singulières. Bienvenue dans L'Art de passer, saison 2, et l'épisode commence maintenant. Pour lancer la saison, comme on lance une balle en l'air, j'ai rendez-vous avec Gaël Copé de la compagnie Anorak. On s'est installé dans une salle, on dirait un mini-gymnase. J'ai apporté des petits sandwichs mous avec des tranches de fromage. Il paraît qu'elle aime bien ça. Il y a aussi une petite odeur qui flotte dans l'air. Mélange de chaussettes, de tapis et de sueur. Au loin, on peut entendre la rumeur des classes d'enfants qui se ruent au salon du livre. Et c'est Gaël qui continue à planter le décor.
On est à l'école de cirque de Bruxelles, dans le parc de Tour et Taxi. On est dans une salle entourée de matériel d'équilibre, des tapis, des trapèzes, il y a des mousses.
C'est un environnement un peu familier pour toi ?
Ben oui, parce que j'ai commencé le cirque à l'école de cirque de Bruxelles, quand j'avais 8 ans.
Ah ouais, ok, 8 ans.
Ouais, mais c'était pas ici, c'était à Ixelles, chaussée de Boundal.
La porte rouge.
C'était une porte rouge ?
C'était une grande porte rouge, ouais.
Mais je me rappelle pas tant de la porte rouge, mais...
De quoi tu te rappelles de 8 ans et de l'école du cirque à chaussée de Boundal ?
Je me rappelle des salles, de la cafétéria qui était assez cool, il y avait plein de sculptures de clowns en bois comme ça, c'était assez chaleureux. Je me rappelle qu'on me déposait là-bas et mes parents ils m'attendaient dans la cafette en attendant que je fasse le cours. Je me rappelle que la prof, à la fin du cours, elle cachait un paquet de chips dans la salle et qu'on devait le trouver. Et après, on mangeait le paquet de chips tous ensemble.
Et c'était ton moment préféré ?
Ça, j'adorais. Et je me rappelle quand j'ai pour la première fois découvert une boule d'équilibre. C'est des grosses balles comme ça. Et j'ai vu ça dans une réserve et j'ai taper avec ma main dedans comme si j'allais pouvoir la faire rebondir, mais c'est des boules méga dures et du coup je me suis fait méga mal.
Il y en a justement, on en regarde là, des grosses boules qui font quoi, 80 cm de diamètre sur lesquelles on monte, c'est pour faire de l'équilibre.
Oui c'est ça, mais c'est hyper dur en fait, c'est solide.
À 8 ans, t'as tout appris à l'école du cirque, tu faisais de la boule d'équilibre, c'était quoi les activités à part chercher des chips?
À 8 ans, tu fais un peu tout. Tu as des cours de pluridisciplinaire, du coup, tu fais tout, trapèze, équilibre, jonglerie, acrobatie, du fil. Tu fais toutes les techniques, quoi.
Et t'aimais tout ?
Dans mon souvenir, j'aimais tout, mais c'est assez vite que j'ai commencé à jongler.
Ah ouais ?
Enfin, je pense que j'aimais bien jongler.
Et tu sais pourquoi ? T'aimais bien jongler ? Ou c'était...
Bon, ça, c'est des grandes questions philosophiques sur ma vie. Après, dans le cirque, c'est un peu particulier. Il y a quand même cet héritage du cirque traditionnel où souvent les hommes jonglent avec des assistantes et les femmes font des numéros d'aérien et d'acrobatie avec des costumes à paillettes.
Ah,
du
ouais.
coup, en fait, il y a encore l'héritage de tout ça. De moins en moins, j'espère. Et je pense que ça évolue un peu. Mais en tout cas, à l'époque, souvent, les filles faisaient plutôt du trapèze.
Et du tissu.
Et plutôt les garçons jonglaient. J'aimais bien faire des trucs de garçon quand j'étais petite, je jouais au foot, j'aimais bien les balles, alors c'est peut-être pour ça que j'ai commencé à jongler, j'aimais bien les ballons, j'avais un prénom Gaël, parfois les gens croyaient que j'étais un garçon, moi j'ai eu tout ça dans l'enfance. Après on doit choisir sa technique à l'école du cirque assez vite en fait, quand on entre en secondaire on doit choisir une spécialisation,
okay.
Et là, on te demande de choisir des cours techniques et après, tu n'as plus que ta technique.
Et là, tu as focalisé jonglerie, quoi.
Ouais.
Et aujourd'hui, tu as quel âge ?
35.
Et donc, entre 8 ans et 35 ans, tu n'as jamais arrêté de jongler ?
Après, si, à des moments, j'ai arrêté. Ouais. Parce que je... Quand on découvre une technique de cirque, il y a un truc assez, moi j'appelle ça un peu genre émotionnel, un peu comme une relation amoureuse. En gros, on est d'abord dans l'enfance j'étais très amoureuse de cette pratique, ce qui fait que qu'on plonge dedans à fond. Et après, on a des moments où ça va un peu moins bien, et puis des moments où on n'a plus trop envie d'être avec cette personne, tels que les objets, et puis des moments où on culpabilise de plus être avec. On a envie, mais on ne sait pas trop comment, et après on replonge. Enfin, c'est un peu l'histoire d'une vie.
C'est une vraie relation avec l'objet, quoi. L'objet, les balles.
C'est une vraie relation. Et genre là, j'ai fait, il n'y a pas plus tard que 3 semaines, ma séance psy, c'était sur mon rapport au jonglage, quoi. Mon rapport avec mes balles, qu'est-ce qui se passe là, c'est un truc, c'est intense.
Et là, devant nous, on a 4 balles. 3 balles blanches de République tchèque.
C'est ça.
De très belles factures. C'est quoi leur spécificité à celles-là ? Pourquoi elles sont super ?
J'ai l'impression que y a la texture. Enfin, après, c'est des balles molles. Hein. C'est-à-dire que quand en fait, elles tombent au sol, elles tombent, elles ne vont pas rouler. Ça, moi, j'aime bien parce qu'il ne faut pas aller passer sa vie à courir après des balles qui roulent derrière des mousses ou en dessous du lit. Aussi, dans les attrapes, on peut... Comme elles sont molles, on peut faire des trucs, enfin les attraper par le bout du doigt et on peut réussir quand même à faire une rattrape. Je trouve la sensation agréable en main.
De pouvoir les tenir par son pouce et son index.
Oui, mais même la texture de la balle. Enfin, moi j'aime bien aussi quand les balles sont un peu comme des doudous, du coup on doit pouvoir genre dormir dessus, enfin ça doit être agréable au toucher.
T'as déjà fait de dodo avec des balles ? Tu t'en es servi comme doudou ?
Ben moi, j'appelle toujours mes balles mes doudous, ouais.
Comment tu t'es formé ?
Ben d'abord à l'école de cirque de Bruxelles. Genre de mes 8 à 18 ans, j'étais ici.
À raison d'une fois ou deux par semaine ou...
Dans l'adolescence, je venais 6-7 heures par semaine.
Ah ouais.
J'étais dans les programmes intensifs où tu as des cours techniques, puis tu as aussi les ateliers de création où tu es avec le même groupe de jeunes et on fait un spectacle et après on va le jouer. Et puis ça, c'était les premières scènes et tout ça.
Et c'est des bons souvenirs, ça ? C'était... Ou pas que ?
Non, c'est que des bons souvenirs. Ouais. C'est vraiment genre l'amour du cirque qui est né à ce moment-là, vraiment. Vraiment, on allait voir des spectacles ensemble, on avait genre... Après, dans les cours, j'avais mes potes de la jonglerie, quoi. Il y avait Martin, Tom, avec qui je fais un spectacle maintenant.
Tom Bocara, avec qui tu joues dans Trash National.
Ouais, c'est ça. On était hyper fans de jonglage. On faisait du Diabolo aussi, on regardait beaucoup de vidéos sur Internet. On avait des idoles. Et ce qui est génial, c'est qu'il y avait des conventions de jonglerie. Et ça, c'est comme des sortes de festivals où il n'y a que des jongleuses et des jongleurs qui viennent. Et nous, on y allait. Et une fois par an, il y a une européenne où il y a tous les gens d'Europe et même de plus loin qui viennent. Ça dure une semaine. Il y a des spectacles. Tout le monde jongle toute la journée et la nuit dans une salle. C'est un truc de malade. Et nous, on restait toute la nuit. Ou t'es le soir dans ton sac de couchage et tu regardes les gens jongler. T'es trop fan.
Et donc, c'est-à-dire qu'à la fin de tes secondaires, tu as fait l'humanité générale ou tu ne décides pas de te lancer direct dans le cirque ou dans le... Tu avais envie de faire journaliste ou de faire des études ?
Moi, ça, je me suis demandé ce matin ce qui s'était passé. Mais je pense que après, dans toute cette bande de l'école de cirque aussi, dans tous les copains et tout, personne n'allait faire une école. Dans ma classe, tout le monde allait faire un peu l'UNIF ou des trucs comme ça. Et en fait... Peut-être j'aurais eu envie de faire du cirque. Enfin, c'était là, mais peut-être qu'autour de moi, personne n'allait faire ça et j'ai peut-être pas eu assez le courage toute seule pour me dire « Ok, je fais ça ». Du coup, j'ai fait journalisme parce que j'ai fait commu à la base et c'était assez général. Il y avait un peu des cours de tout. J'ai fait un bac et après, journalisme, j'ai fait parce que c'était des études intéressantes.
Ouais.
Je voulais pas spécialement être journaliste. Et c'est qu'en sortant, je me suis dit, merde, il faudrait quand même que je jongle parce que c'est trop important pour moi. Puis ça a mis un peu de temps à trouver le chemin.
Tu as continué à jongler pendant ces études de journalisme ou ça s'est mis un peu de côté après?
Ah si, moi j'ai continué à jongler parce que j'étais au Cirque aux Côtes à Louvain-la-Neuve. J'étais dans le Côte à Projet qui donne des cours de jonglerie, qui organise un festival. Enfin voilà, j'ai jonglé encore là-bas. Et je continue à aller à des conventions, des trucs comme ça aussi, pendant l'UNIF.
Et là aussi, tu as rencontré des gens au Cirque aux Côtes? Vous faisiez des spectacles?
On faisait des spectacles. Et en sortant du Cirque aux Côtes, avec tous mes colocs, quoi, on s'est dit, ah, on ferait bien un petit spectacle pour rigoler, quoi, parce que c'était marrant. Et là, on a créé la compagnie Scratch, en sortant de l'UNIF.
Ok, donc la compagnie Scratch, c'est que des gens qui sont connus au Cirque aux Côtes de Louvain-la-Neuve?
Ouais. À la base.
Et qui ont tous fait des études.
Ouais.
Pas de cirque, quoi, à la base.
Pas de cirque. Non, pas de cirque. Bah, Denis, il a fait informatique. Uh-huh. À la base, il y avait Simon qui a fait logopède. Jonas, il était bio-ingénieur. Benito, il a fait du son. Benja, éducation physique. Et Marthe, aussi, ingé gestion. Je pense que j'ai oublié personne.
Et là, vous sortez le premier spectacle de la compagnie Scratch, TNT.
C'est ça.
Vous vous y explosez des trucs. Oui,
mais t'es hyper bien renseigné.
Ben ouais, quand même.
T'es renseigné sur ton sujet. Nous, on disait TNT parce qu'on était un peu en mode.
Américaine.
Américaine. On a fait ce spectacle. Et en mode, on jouait, mais. À l'arrache, quoi, sans subvention.
Ouais, c'était le début. Ouais.
C'était le début.
Personne ne connaissait comment fonctionnait, j'imagine,
le secteur
et tout ça.
Et après, dans l'équipe, on avait quand même des gens bien motivés. On avait réussi à avoir une résidence au Lubilis, parce que Martin était un habitant de Woluwe, enfin, des trucs comme ça. Et France, elle nous a dit OK. C'était notre premier et seul soutien avec UCL Culture.
Ça a été difficile de trouver du soutien au début?
Bah oui,
ouais.
Évidemment. Enfin, je veux dire, on venait de nulle part, on avait fait des études universitaires. Voilà. Mais par contre, je pense qu'il y avait une telle énergie, une telle dynamique dans le groupe et un tel « ouais, on va le faire, ça va être trop cool », une telle motivation qu'on a trouvé des lieux pour jouer. Après, on vendait le spectacle rien du tout, peut-être même gratuit ou genre 500 euros pour 6. On était 7 dans TNT. On était 5 sur scène et on était 7, on changeait tout le temps les rôles. Il y en a qui connaissaient deux rôles. Et on partait à 7 en tournée, on ne savait jamais qui allait jouer.
Ah, c'était toujours une surprise, vous changez.
On décidait la veille. Ouais, c'est ça. Et Chalon, c'était vraiment un coup de bol qu'on a été pris. C'était cette année-là, on avait. On a postulé, on a été pris à Chalon, quoi. Et on n'était pas du tout prêtes et prêts quand on a été à Chalon. On a fait des répétitions générales dans le camping. On était en panne et on répétait des passings sous un pont. Et ça tombait. Quand on a joué le spectacle, on a eu un problème son. On a fait la moitié du spectacle dans le silence. Enfin, des trucs trop marrants.
C'est des bons souvenirs à la fin, quoi.
Oui, mais à fond.
Et après, ça a quand même tourné.
Après, Chalon, on a eu quelques dates la saison d'après, et après, quand même, ça a tourné. Ce qui fait que quand on a voulu faire le deuxième spectacle, on avait déjà un petit carnet d'adresses, et alors là, on a pu entrer dans des lieux du cirque, plus cirque, quoi. On a, enfin, comme Espace Catastrophe à l'époque, Latitude 50, Centre culturel du Brabant Wallon.
Et là, vous avez fait Split. C'était un spectacle avec un mur au milieu, séparé, qui jouait sur. Mm-hmm. Et aussi beaucoup de jonglerie?
Ouais, beaucoup de jonglerie. Ouais, c'était l'idée.
Et là, jonglerie où vous essayez d'atteindre votre meilleur niveau de jonglerie? Ou aussi, vous essayez de faire des trucs de ouf de jonglerie ou pas?
Oui, là, c'était encore. Enfin, c'était un spectacle collectif, du coup, on était 6.
Des décisions collectives à chaque fois?
Oui, c'était horizontal, il n'y avait pas quelqu'un qui décidait, mais c'était un sacré bordel, cette création. On a beaucoup appris, je crois, et surtout, pour faire cette création, c'était mis beaucoup de pression. On avait dit, on arrête notre travail, maintenant on devient un circassien, un professionnel, et tout le monde avait arrêté son travail, on n'avait plus que ça.
Ce qui n'était pas le cas pour TNT, où tout le monde bossait encore, sortait des études.
Avec grosse pression. À des moments, ça a un peu craqué, quoi. Il y en a dans l'équipe qui finalement ont arrêté la créa, puis on a eu des remplaçants, puis C'était...
Est-ce qu'il y avait une exigence que vous mettiez assez haute quoi, pour ce spectacle-là?
On s'était mis, oui, une grande exigence, des gros objectifs. Ouais. Et là, on avait envie aussi... Enfin, il y en a qui avaient envie de faire de la jonglerie impressionnante, beaucoup de jonglage, et puis c'était un peu parfois difficile de se trouver ensemble.
Et après, Mousse avec Denis, où là, c'était... Tu l'expliques dans le spectacle, c'était une envie de solo, puis c'est devenu... Est-ce que c'était directement l'idée de faire un duo à vous deux? Ou c'est toi qui te dis ah, « bah, je vais faire mon truc dans mon coin, et puis Denis va venir m'aider
». Oui, c'est moi, j'ai fait un truc dans mon coin. Mais après, le truc collectif assez chouette, mais quand même compliqué, chaotique, j'avais envie de faire un peu un truc toute seule. Et là, j'ai fait quelques résidences de Mousse. Toute seule, et puis un jour je devais faire une présentation d'étape de travail à l'espace catastrophe, et j'étais là, qui va me mettre la musique, ça va être horrible. Et j'ai demandé à Denis, et il était là. Et en fait, quand il est arrivé le premier jour de résidence, j'ai dit, en fait, Denis, tu voudrais pas être sur scène, allez, et finalement ça va être un duo, d'accord. Et il a dit, ok. Mais c'était vraiment pas du tout prémédité ou réfléchi, enfin, c'était vraiment du jour au lendemain.
Ah ouais, de manière assez organique, quoi. Oh, il faut quelqu'un. Et alors là, c'est un basculement, je trouve, en termes de spectacle, où on va parler de l'intime, quoi. Mousse, en tout cas, et les spectacles que tu as fait de Rache National, ça parle de l'intime. Ça, c'était ton souhait, à toi, de partager cette intimité et de ne pas aller dans la performance circassienne?
Je pense que c'est venu, que Mousse est venu aussi au moment où j'ai découvert le clown. Ça s'est mis un peu en même temps. Et après mon premier stage de clown, je me suis dit, mais mince, comment est-ce que je vais pouvoir mêler le clown et le jonglage? Parce qu'en fait, si je suis vraiment moi-même, j'arriverai jamais à jongler. C'est comme tellement... Il y avait tellement de doutes et d'hésitations dans le clown qu'en fait, faire quelque chose de performatif en jonglage, on ne sait pas le faire quand on doute, ou qu'on est hésitant, ou qu'on tremble, ou qu'on est fragile. Et là, ça a commencé un peu la réflexion de comment on fait le jonglage quand on est fragile. Alors qu'avant, c'était, en tout cas dans l'adolescence et un peu au début, c'était « Allez, je vais montrer quand même un truc impressionnant parce que ça fait applaudir les gens ».
Ce petit jouet, peut-être, c'est plus étrange.
Ah, ça, c'est une boîte à musique. Mmh. Je vais la faire. Au début, voilà, c'est... Ben là, je suis en train de la remonter, mais quand on l'actionne, après, il y a deux petits acrobates sur une boule qui tourne. Et ça, c'est mon fils qui a reçu comme cadeau de naissance. Et du coup, les gens m'offrent des trucs avec du cirque. C'est vraiment dans ma vie,
ah ouais,
quoi. J'ai reçu un truc circus. J'ai pas apporté, mais genre, ma grand-mère a offert le livre du cirque. Où genre, il y a des musiques hyper traditionnelles, genre, quand on appuie sur un bouton, des trucs comme ça. C'est-à-dire que ça fait quand même partie de mon identité. Les gens voient quand même, m'offrent des trucs de cirque.
À ton enfant, quoi.
Et à mon enfant. Et il marche plus très bien. Parce que du coup, comme il a joué beaucoup avec. Voilà. C'est joli quand même.
Ah ouais. Tu jongles avec ton fils? Tu lances des balles avec lui?
Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est l'objet qui symbolise quand même ma maternité, qui a été quand même quelque chose dans mon parcours de circassienne. Je crois pas que j'ai géré. J'ai vraiment pas géré. Avant d'avoir un enfant, j'avais hyper peur que ça ait une influence sur ma vie artistique, ma vie de jongleuse, ma vie de spectacle. J'avais écrit partout, ça ne changera rien, je continuerai tout comme avant. Et j'y croyais à fond. Et enceinte, j'ai joué encore beaucoup de dates, c'était vraiment dur. J'avais comme ça un carnet où je disais plus qu'une, plus que deux. Enfin, ça a été vraiment plus une souffrance qu'une partie de plaisir de faire ces dates, quoi. Un peu comme si je m'étais dit, je me suis engagée à ça, il faut le faire maintenant et continuer. Donc, ça a tiré longtemps. Après l'accouchement, j'ai repris très vite à jouer aussi.
Oui, si tu étais en répétition 2 mois et demi.
À 2 mois et demi, et après à 3 mois, je reprenais les tournées avec Denis. Du coup, là, le bébé, il venait aussi en tournée. C'était trop. Enfin, voilà. C'était beaucoup, beaucoup. Et après, on était en création pour Drash, et j'étais là. Ok, on continue les résidences, les machins. Et après, quand mon fils a eu 1 an, j'ai craqué complètement. Enfin, en fait, on a fait les premières de Drash quand il a eu 1 an, et 2 mois après, mon corps a craqué, mais fort.
Il a dit stop ou quoi ?
Oui, oui, c'est ça. Même si mentalement, moi, j'étais très solide, enfin, en mode vraiment, j'étais très volontaire. En fait, on jouait avec Denis, j'étais tellement fatiguée que j'avais la tête qui tournait pendant 50 minutes, et je voyais des étoiles. Pendant que je jonglais, ok, mon corps, il sait plus ou moins ce qu'il a à faire, mais c'était de la survie, quoi. Et alors, j'avais, voilà, des angoisses, des acouphènes, des chutes de tension, enfin, un peu une panoplie de trucs pourris. Et puis, quand on était à Chalon, là, j'arrivais même plus à parler ni à manger.
Ah oui.
Mais j'étais là, ok, il faut qu'on fasse Chalon, il ne faut pas annuler. On était sur place avec nos familles, la famille de Denis, la diffusion, enfin, on avait loué un logement, plein de trucs. Genre. Et la veille, il y a eu une réunion dans le salon. Tout le monde a dit, genre, Gaëlle, on va pas jouer, en fait. On va arrêter. C'est plus possible. Et puis voilà. Là, j'ai dit, ok.
Mais ça c'est a pas... dû venir de l'équipe aussi qui a pris soin de toi, c'est chouette.
Oui, c'est ça. Mais je parlais plus. Hein. Et avant ça, j'ai dit, genre, bon, on s'organise comment pour aller faire la clash, pour mettre les affiches. J'étais très mignonne, quoi. Voilà. Et après ça, on s'est arrêté 8 mois. 8 mois de pause.
Et t'as pu te retrouver ton corps et des forces, quoi.
Bah, en fait, en gros, j'ai fait un gros burn-out, quoi. Bah, ça va mieux, mais ça met du temps. Et oui, j'ai retrouvé petit à petit des forces en faisant tout ce qu'on fait quand on a un burn-out, quoi. Genre de l'aquarelle, de la céramique, du yoga, de la piscine, du psy, du médecin. Voilà, un peu la totale. Mais quand même bien flippant. Du coup, la maternité, ouais. Ça n'a pas été simple.
Oui, parce que pendant tout ce burn-out, il faut quand même continuer de s'occuper de l'enfant, quoi.
Ouais. Oui,
ça,
oui.
Ça demande des énergies, c'est aussi du stress, de l'angoisse.
Mm-hmm. Mais en fait, ça allait. Oui. Je pense que oui, ça n'a jamais vraiment... Mon enfant, et ça, voilà, ça dépend un peu des maternités, mais ça a plutôt toujours été une source de positive, de bonheur, de ça va aller. Je pense que c'était tout le reste à côté, c'était trop, mais après, je devais le laisser, partir en tournée, je pleurais. Puis parfois, c'est cool les tournées, mais parfois, tu es un peu toute seule dans ta chambre et tu ne sais pas trop ce que tu fous là, dans un zoning à côté du KFC en France. Et en fait, ton enfant est à la maison et t'es là, mais c'est quoi ma vie? C'est trop bizarre. Il y a des moments de doute qui arrivent et les moments de doute, ils n'étaient pas là avant. Avant, c'était la tournée, c'était cool. Et ça change vraiment un aspect. Tout est différent. Je peux pas... Maintenant, je commence à accepter que ma vie, je ne serai plus jamais comme avant.
Ah ouais.
Mais c'est un deuil d'une vie d'avant.
Ouais, c'est un deuil d'une vie d'avant. Mais là, tu as repris, et alors, tu m'avais expliqué que Denis, il a créé un outil informatique pour vous protéger. C'était marrant, ça.
Oui. L'outil, ça s'appelle le vérificateur.
Ouais.
Mais notre diffuseuse, elle dit verificator.
En américaine.
En américaine. C'est un outil où quand on joue une date, il y a une case qui est verte, mais après, ça amène des cases rouges. Du coup, en fait, on a des jours de récupération après qu'on soit parti en tournée ou qu'on ait joué. Comme ça, on est sûr qu'on voit tout un mois déjà rouge. On est sûr que là, peut-être, ce serait trop de rajouter une date.
Ah, oui.
Et c'est plus simple pour la communication avec la diffusion parce que quand elle voit que le mois est déjà rouge, elle nous envoie « il y a une date là, mais ce serait peut-être un peu trop ». Et alors, on répond « oui, peut-être, ce serait un peu trop ». Alors qu'avant, c'était plutôt « vous avez une proposition, est-ce que vous voulez jouer ? » Et c'est plus dur de dire non. Mais c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir des chouettes retombées avec nos spectacles au niveau des dates.
Bah oui, c'est
qui
bien.
Fait qu'on doit imaginer un vérificateur et tout ça. on est clairement privilégié.
Chaque jongleur, chaque jongleuse a sa jongle. Mmh. Toi, tu sais dire comment est la tienne ?
Oh ! Je pense que, oui, en effet, le jonglage que je fais, il a été inspiré par tous les jongleuses et jongleurs qui m'ont... Un peu comme quand on a des influences en musique, où genre, il y a une figure que j'aimais bien, du coup j'ai pris et... Enfin, où j'ai essayé de faire comme, mais sans jamais faire vraiment la même chose, parce que parfois il y a des gens qui aiment pas trop qu'on prenne la même chose, mais ça, je trouve ça nul, mais c'est pas grave. Mon jonglage, du coup, je dois dire mes influences, pas spécialement. Donc, je dirais que c'est en même temps beaucoup un jonglage 3 balles, où j'ai essayé de mettre le corps. En même temps, j'ai essayé de mettre un truc intense, mais doux. aérien parfois, qui tourne. J'aime bien les boucles, les répétitions, qui te fait tourner la tête. Je crois que c'est surtout au fur et à mesure, ça s'est développé sur ce que j'aimais bien faire moi et pas sur ce que je faisais parce que les autres aimaient bien.
À quoi tu penses quand tu jongles ?
C'est marrant, ça me fait trop penser à mon film préféré. Mon film préféré, c'est... Après, je répondrai. Mais c'est Billy Elliot. Et quand il fait les auditions de danse, le jury lui demande « À quoi tu penses quand tu danses ?» Genre, qu'est-ce que ça te fait ? Et alors, après, il met un temps et puis il dit que c'est comme de l'électricité, qu'il se sent comme un oiseau. Ça, je pense que c'est génial quand on arrive à ce moment-là. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on cherche ça, le lâcher prise et être dans l'instant du mouvement et que ça vide la tête... Ça, c'est génial, mais ça n'arrive pas tout le temps. Je peux penser à tout et n'importe quoi, à mes problèmes. Après, ça rumine quand même le jonglage. On est dans un truc répétitif, ça ne vide pas toujours la tête hein, à ce qu'on va cuisiner, à ce qui ne va pas. Mais quand on arrive à... C'est comme de l'électricité, ben là, on est bien. Je pense que c'est comme quand on fait un spectacle. Parfois, on pense à après, à avant, et puis parfois, on est dedans et du coup, on ne pense pas. Et je pense qu'on le fait pour arriver au moment où on ne pense pas.
C'est ainsi que se termine cet épisode de L'Art de passer. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Vous pouvez retrouver et partager tous les épisodes sur le site lartdepasser.be ou via toutes les plateformes d'écoute. Il m'aurait été impossible de fabriquer cela tout seul. Leslie Doumerx a assuré la prise de son et la réalisation, au montage et mixage Arthur Lacombe, et les musiques sont de Mathieu Tonnant. L'Art de passer est une production de la compagnie des Vrais Majors, coproduit par Latitude 50, Pôle des Arts du Cirque et de la Rue, avec le soutien financier d'Air Libre, Fédération des Arts de la Rue, des Arts du Cirque et des Arts Forains. Et le soutien technique de Radio Panique et Radio Campus. Sincères remerciements à toutes et à tous. À bientôt pour la suite. Pour celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout du générique, petit bonus, Gaëlle Copé nous offre un cours accéléré de Side Swap.
C'est comme le solfège du jonglage, tu connais ?
Non.
Ben en fait, tout ce que tu fais en jonglage peut être écrit en chiffres. Et du coup, c'est très rythmique. Ça, c'est un 3. Mais en fait, pour être simple, quand il n'y a pas de... J'explique vraiment ça parce que c'est marrant. Quand tu passes la balle d'une main à une autre, c'est un 1. Quand ta main est vide, c'est un 0. Tout ce qui croise, c'est les chiffres impairs, du coup, et au niveau des hauteurs. Du coup, par exemple, ça, c'est un 3, c'est un 5, ça va être un 7, mais à chaque fois, tu peux le compter. Ça, c'est un 2, c'est un 4, c'est un 6. Et du coup, là, quand je jongle, ben, là, c'est juste une cascade, du coup, c'est des 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, par exemple. mais par exemple, ça c'est des 5-3-1. Parce que là, je fais un 5, un 3 et un 1. Normalement, il y a un côté très rythmique. Par exemple, ça c'est un 4-4-1, je vais faire, et si on écoute, ça peut faire comme une valse. Ta 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 ta. Voilà.